Nous avons vu hier Dieu dans ses perfections, Dieu dans le mystère de la Sainte Trinité, ce qui s'oppose à Dieu, le péché. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ qui vient nous racheter, qui vient nous sauver. Et là, nous allons regarder l'effet de la rédemption dans nos âmes. Sans doute ce qu'il y a de plus beau, de plus consolant et dont nous devons nous appliquer à vivre, c'est-à-dire la grâce, le mystère de la grâce sanctifiante dans nos âmes et des puissances qui nous permettent d'agir divinement, donc des vertus et des dons. Il faudrait que nous arrivions à vivre véritablement de la grâce qui est présente dans notre âme, de cette présence de Dieu, parce que la grâce du bon Dieu, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée, la vie de la Sainte Trinité. Si vous voulez trouver des textes, les textes de l'Écriture ou de la liturgie sur la grâce, notre adoption divine, c'est tout particulièrement dans le temps de Noël, puisqu'à Noël nous fêtons la naissance du Fils de Dieu dans la chair, eh bien l'Église en même temps nous rappelle notre propre naissance à la grâce. Donc dans votre missel, vous pouvez retrouver des textes de l'Écriture et de la liturgie sur ce mystère de la grâce, tout particulièrement dans cette période de Noël. C'est ce que disait le pape Saint Léon la nuit de Noël, dans les matines de Noël, vous trouvez ça dans les missels des dons Lefèvre. Il disait: « Reconnais, ô chrétien, ta dignité. » Bien, cette dignité de chrétien est le fruit de la charité divine à notre égard. C'est ce que dit saint Paul aux Éphésiens et aux Romains: par l'excès de la charité dont Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Chair semblable à celle du péché, effectivement. Notre condition actuelle sur terre, avec toutes les misères que nous connaissons, vient et est issue du péché. Et notre Seigneur a voulu l'apprendre, l'excès de charité dont Dieu nous a aimés. Et c'est cet excès de charité qui a accompli la rédemption, donc par notre Seigneur mourant sur la croix, et c'est cette rédemption qui nous est méritée. Toutes les grâces qui nous sont données, tous ces dons surnaturels qui nous transforment intérieurement. Et dans l'épître à Tite, que vous trouvez dans la messe de l'aurore de Noël, saint Paul dit: « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par miséricorde. » Autrement dit, nous n'y sommes pour rien. Enfin, d'une certaine manière, à l'origine, c'est seulement la miséricorde du bon Dieu. C'est pas parce que j'aurais accompli telle ou telle bonne action, tel ou tel acte auquel le bon Dieu devrait en récompense donner ceci ou cela. Au principe, il n'y a que la miséricorde de Dieu. Donc si le bon Dieu n'avait pas voulu faire miséricorde au genre humain, nous n'aurions jamais eu Jésus-Christ, nous n'aurions jamais eu la grâce dans nos âmes. Donc c'est vraiment, nous sommes dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de la rédemption, Nous sommes totalement dépendants de la miséricorde. C'est le bon Dieu qui nous a aimés en premier, comme dit Saint Jean quelque part. Donc nous avons été sauvés, transformés par la grâce que Jésus nous a méritée sur sa croix. Mais si Jésus nous est donné, et avec lui toutes les grâces, c'est un effet de la miséricorde de Dieu. Alors je vais essayer de faire comprendre, d'essayer pas à pas de vous décrire cette transformation qui est opérée en nous par la grâce. Petite description pas à pas, bon, je pense que certaines d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est toujours bon d'y revenir, il faut très très souvent reméditer sur ce mystère de la grâce en nous. Alors nous sommes nouvelles créatures, dit Saint Paul. Saint Paul aux Galates, chapitre 6. Nouvelle créature. Alors nous allons expliquer cela. Pas à pas, et ensuite nous montrerons que le bon Dieu non seulement nous a fait nouvelle créature, mais il nous donne aussi d'agir en nouvelle créature, d'agir divinement, surnaturellement. Alors, voici ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Créés en Jésus-Christ. Donc, c'est une nouvelle création. Parce que nous avons été créés une première fois, notre âme est sortie directement des mains de Dieu, et puis notre corps par l'intermédiaire de nos parents. Ça, c'est notre première naissance, notre première création. Mais là, c'est vraiment une nouvelle création et créée en Jésus-Christ, donc par la rédemption sur la croix. Et dans le but de faire de bonnes œuvres. Vous voyez, ce n'est pas uniquement une transformation statique, mais ça a pour but de nous faire aussi agir. C'est les deux. Cette créature, il faudra qu'elle agisse en nouvelle créature. Saint Thomas d'Aquin dit « Nous sommes créés en grâce, c'est-à-dire constitués dans un être nouveau à partir de rien, c'est-à-dire sans aucun mérite préalable de notre part. » C'est le baptême pour nous qui avons été baptisés, enfants, ou bien pour quelqu'un qui se convertit et qui quitte une vie de non-baptisé, pour être baptisé, ben c'est sans mérite de sa part. Il n'a rien fait pour obtenir cette conversion. D'autres ont agi pour lui. Notre Seigneur, des personnes qui ont prié, qui ont offert leur sacrifice, mais lui, il a été, en se convertissant, et donc il passe, il devient créature nouvelle, mais il n'y est pour rien, sinon de correspondre, de coopérer. Mais il n'y a aucune action préalable qui aurait pu lui mériter cette conversion qui le fait devenir une nouvelle créature par la grâce. C'est la miséricorde du bon Dieu. Créé en grâce, c'est-à-dire constitué dans un être nouveau, à partir de rien, c'est-à-dire sans aucun mérite de notre part. Donc la grâce sanctifiante, eh bien, c'est ce don surnaturel qui fait de nous une nouvelle créature. Alors on dit grâce sanctifiante, sanctus et faire, qui nous fait saints. La grâce sanctifiante nous fait saints, c'est-à-dire agréable, saint et agréable à Dieu. Parce que quand il y a le péché mortel, eh bien, nous ne sommes pas du tout agréables au bon Dieu. Donc, Nous devenons agréables au bon Dieu par l'action de Dieu. Par le péché, nous étions tout à fait désagréables au bon Dieu. Et le bon Dieu, et c'est ça la grâce, ce don de Dieu qui nous rend agréables à Dieu. Donc il y a la grâce sanctifiante qui arrive, qui nous transforme et qui nous rend aimables, agréables à Dieu. Nous ne l'étions pas et nous le devenons. Donc le bon Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas du tout aimables. Et c'est parce qu'il nous a aimés, c'est en nous aimant qu'il nous rend aimables. Parce que quand Dieu aime, il donne quelque chose. Et là, en nous aimant, il nous donne ce qui nous rend agréables, c'est la grâce. Et donc, si vous voulez, l'amour du bon Dieu nous rend agréable en nous donnant ce don, et ce don de la grâce, en arrivant dans l'âme, chasse tous les péchés, tous les péchés sont remis, et l'âme retrouve la beauté qu'elle avait pu perdre. Alors, bien sûr, là, je ne dis pas la nécessité de la coopération de l'âme à la grâce. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la justification, c'est-à-dire ce passage de l'état de péché à l'état de grâce. C'est un passage qui peut être plus ou moins long, très rapide, par exemple, Saint Paul, c'est comme ça, sur le chemin de Damas. Très souvent, c'est beaucoup plus long, succession de grâces actuelles qui, pas à pas, conduisent l'âme à donner son plein consentement à la grâce, et alors là, la transformation s'accomplit. Mais souvent, c'est très graduel et par des chemins tout à fait incompréhensibles. Donc il y a une coopération, bien sûr, nécessaire. Et notez bien que contrairement à nous, nous aimons quelqu'un parce qu'il est agréable. Il est agréable, alors nous l'aimons. Il est aimable, alors nous l'aimons. Mais le bon Dieu, c'est dans l'autre sens. Dieu aime, alors la personne devient agréable et aimable. C'est quand Dieu aime, il donne le don, la grâce, qui rend la personne aimable et agréable à ses yeux. Tandis que notre amour ne rend pas les gens agréables. C'est dans l'autre sens. Les gens sont agréables et aimables, alors nous les aimons. Mais Dieu, c'est dans l'autre sens. Dieu les aime, nous aime, alors nous devenons aimables et agréables. L'amour de Dieu est créateur. L'amour de Dieu crée en nous cet être nouveau par la grâce qui nous rend à ses yeux aimables et agréables. Alors, vous voyez, on monte tout de suite à un niveau qui n'est plus le nôtre. Et deuxième chose qu'il faut noter, c'est que pour le bon Dieu, créer le ciel et la terre avec toutes les créatures qu'il y a dedans, c'est beaucoup plus facile, si on peut parler ainsi, beaucoup plus facile que de mettre une seule âme en état de grâce. Parce que pour créer le ciel et la terre, et toutes les créatures qui sont dedans, le bon Dieu, il n'a qu'à dire « je veux, j'y pense et je veux, et c'est tout. » Ce n'est pas grand-chose. Oui, bon, un peu comme la baguette magique des fées, là. Donc, toc, et puis ça arrive. Mais pour le bon Dieu, créer, c'est tout simple, hein, créer n'importe quoi. Il n'a qu'à y penser, le vouloir, et ça se fait. Mais pour recréer une âme, pour la remettre en état de grâce, ce n'est pas la même chose. Il faut la rédemption. Il faut l'incarnation et la rédemption. Il faut le Dieu le Fils qui se fait homme, qui souffre et qui meurt sur la croix. Donc, la recréation, la mise en état de grâce de nos âmes, c'est autre chose. Et n'oublions jamais le prix qui a coûté à notre Seigneur pour que nous soyons en état de grâce. Hein, notre âme vivant en état de grâce, c'est d'un prix infini. Parce que c'est le sang de Jésus, et c'est le Fils de Dieu. Donc nous sommes nouvelles créatures, nous sommes donc créés en Jésus-Christ, par sa passion, par les mérites de sa croix. Alors il faut dire davantage, la grâce sanctifiante est une participation à la nature divine. C'est ce que dit saint Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1er. Participation à la nature divine. Ce qui fait que la liturgie, surtout celle de Noël, les pères de l'Église, sont dans l'admiration. La liturgie de Noël, vous trouvez ça dans l'antienne des secondes vêpres du 1er janvier. Elle dit « Ô admirable échange !» Le Créateur du genre humain, prenant un corps et une âme, a daigné naître de la Vierge, est devenu homme sans le concours d'homme, il nous a fait part de sa divinité. Ô admirable échange, autrement dit, nous lui donnons corps et âme, et lui nous donne sa divinité. C'est ce que disent les pères de l'Église. Saint Augustin, si Dieu s'est humilié jusqu'à se faire homme, ce fut pour exalter les hommes jusqu'à en faire des dieux. C'est fort hein, comme parole. Participant de la nature divine. Saint Pierre Chrysologue. Ce que les plus nobles créatures n'auraient jamais pu rêver, ce qui remplirait d'étonnement et d'admiration les plus hautes vertus célestes, nous le répétons tous les jours avec confiance, notre Père qui êtes aux cieux. Commerce admirable entre le Créateur et la créature, il se fait notre égal pour que nous arrivions à être ses égaux en un certain sens. Oui, bien sûr, quand même. Qui jamais aurait pu soupçonner un tel excès d'amour ? Dieu se faisant homme pour que l'homme devienne Dieu, le Seigneur se rendant esclave, c'est-à-dire homme dépendant, le Seigneur se rendant esclave pour que l'esclave devienne son fils, établissant ainsi entre la divinité et l'humanité une éternelle et ineffable parenté. Certes, on ne sait qu'admirer le plus ou Dieu s'abaissant jusqu'à notre servitude ou Dieu nous élevant jusqu'à sa dignité. Et saint Jean Chrysostome, donc, pour vous citer plusieurs pères de l'Église, ce n'est pas pour rien qu'il est descendu dans une si profonde humilité, c'est pour nous élever de cet abîme aux divines hauteurs. Il est né selon la chair pour que toi tu naisses selon l'esprit. Il s'est fait le fils de la femme pour que toi tu deviennes fils de Dieu. Alors là, je vais faire une petite précision importante eu égard à la crise de l'Église, à ce que dit le pape. Que je vais vous répéter ce que dit saint Pierre Chrysologue. Il s'est fait notre égal pour que nous arrivions à être ses égaux en un certain sens, Dieu se faisant homme pour que l'homme devienne Dieu, établissant ainsi entre la divinité et l'humanité une éternelle et ineffable parenté. Alors, est-ce que, par le simple fait de l'incarnation qui unit l'humanité à la divinité, en l'unique personne de notre Seigneur, est-ce que par le fait de cette incarnation, l'humanité est pour toujours unie à la divinité, l'humanité en général, quels que soient les hommes? Ben non, il ne faut pas dire ça. C'est ce que dit Jean-Paul II, il dit, par le fait de l'incarnation, tout homme est uni à Dieu, qu'il le sache ou non. À peu près ça, hein. Je n'ai pas les paroles exactes, Mais par le fait d'incarnation, tout homme est sauvé, qu'il le sache ou non. Il y a une étincelle de divinité, de divin en tout homme, seulement il ne le sait pas, alors il faut la croix de Jésus pour qu'il en prenne conscience. Non. Celui qui n'a pas la grâce, il n'a pas d'étincelle de divin en lui. Il a le péché. Pas pareil. Nous ne pouvons devenir participants de la vie divine que parce que nous y coopérons en renonçant au péché, et puis par la foi en Jésus-Christ, par toute la démarche chrétienne que l'on sait pour se convertir. Donc ce n'est pas parce que une seule fois en Jésus-Christ, l'humanité est unie à la divinité, cela ne veut pas dire qu'alors tous les hommes sont unis à la divinité, qu'ils le sachent ou non. Non, ça dépendra de leur foi et de leur coopération à la grâce qui veut les sauver. Faire attention hein, sur ça quand même. Parce que les pères de l'Église parlent d'une manière juste, mais ils ne précisent pas hein, simplement. Mais si vous leur disiez, alors tout homme est sauvé, simple, tout homme est sauvé et uni à la divinité, parce qu'en Jésus-Christ, l'humanité, la nature humaine est déjà unie à la divinité. Donc quand les hommes naissent, ben, ils naissent avec nature humaine. Si elle est déjà unie à la divinité, ben, tout homme est uni à la divinité. Ben, les pères de l'Église, ils n'auraient pas été d'accord. Ça, c'est sûr. Pour se convertir, pour recevoir cette grâce de Dieu, il faut se convertir, il faut la foi, il faut obéir au commandement de Dieu, bien sûr. Néanmoins, lorsque nous faisons cela, que par la foi et par l'obéissance à Dieu, eh bien, nous nous convertissons, alors effectivement, nous devenons participants de la nature divine. C'est ce que l'on dit à chaque messe, au moment de l'offertoire, au moment où on verse la petite goutte d'eau dans le vin, on rappelle ce mystère. On rappelle tout le mystère de la rédemption, en quelques paroles. Alors cette participation à la vie divine, c'est un don inhérent dans l'âme. Nous sommes une nouvelle créature, c'est quelque chose, une transformation à l'intérieur de l'âme. Il faut bien préciser ça. La grâce est dans l'âme, la charité est dans la volonté, et c'est une transformation intérieure. Les protestants, eux, disent c'est une simple faveur de Dieu, un manteau, qui cache nos péchés aux yeux de Dieu, mais les péchés restent dedans. Donc la pourriture reste dedans pour un protestant. Mais la grâce du bon Dieu nous couvre comme d'un manteau, et alors le bon Dieu n'y voit plus rien, quoi. Oui, c'est presque ce qu'il dit. Bon, c'est un peu caricatural, bien sûr, ce que dit Luther, mais il dit un peu ça. Hein. Donc tous nos péchés seraient cachés simplement parce que la grâce nous couvre comme d'un manteau. C'est lui qui utilise l'expression. Alors cela est faux, pour nous, la grâce nous transforme intérieurement. Nous sommes vraiment purifiés, lavés, transformés, le péché n'y est plus. Ce qui est quand même beaucoup plus exaltant, hein, reconnaissons, beaucoup plus enthousiasmant et consolant. Et le Concile de Trente a bien enseigné cela comme une vérité de foi. La grâce et la charité sont diffusées dans nos cœurs par l'Esprit Saint et ils sont inhérents en eux. Donc la grâce et la charité sont diffusées dans nos cœurs par l'Esprit Saint et cette même grâce et charité sont inhérents dans l'âme. Donc ils sont dedans, il y a une transformation qui est opérée. Alors c'est un mystère extraordinaire, hein, la grandeur d'une âme régénérée par la grâce, soit par le baptême, soit par une bonne confession. N'oubliez pas que celui qui est en état de péché mortel, qui va se confesser et qui retrouve la grâce, il faut la croix hein, de Jésus pour opérer ça. Faire passer une âme, alors je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais faire passer une âme de l'état de péché mortel à l'état de grâce par la confession, c'est plus que l'œuvre de la création tout entière. Parce qu'il faut Dieu le Fils mourant sur la croix. Et ce don est inhérent dans l'âme, participation à la vie divine. Alors, Essayons de donner quelques comparaisons qui peuvent nous aider à comprendre un petit peu ce mystère. Alors, la première comparaison, c'est celle qu'utilise notre Seigneur dans l'Évangile entre la vigne et les sarments. Donc, Jésus dit, je suis le pied de vigne, et vous, vous êtes les sarments. Alors, le pied de vigne, donc, est en terre, et puis vous avez tous les sarments qui partent. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui fait vivre les deux? La sève, bien sûr. Donc la sève est abondante dans le pied, et puis elle va dans chaque sarment. Si la sève cesse de couler dans l'un des sarments, ce sarment se dessèche, on le coupe et on le jette au feu. Jésus est le pied de vigne, la sève qui est en abondance en lui, c'est la plénitude de grâce qui est en lui. Il est le chef, la tête de l'Église, donc en lui il y a la plénitude de grâce, et cette plénitude de grâce se diffuse dans les sarments c'est nous-mêmes qui recevons de sa grâce et qui vivons de sa grâce. Il faut que le sarment soit uni au cep. Et qu'est-ce qui nous unit au cep de la vigne? C'est l'obéissance à notre Seigneur. L'obéissance et la charité. Mais c'est l'obéissance, surtout. Cette soumission à Dieu qui fait l'union du sarment au pied de vigne. Si vous prenez un sarment et que vous mettez un petit fil autour et que vous serrez. Alors vous faites ça quand il est tout petit, et vous serrez bien. Mais il n'arrivera pas à grossir. Parce qu'il y a l'obstacle qui empêche la sève de passer. Ben ça, c'est le péché. Le péché rétrécit la communication entre Jésus et nous. Et la grâce ne passe pas. Donc on vit moins bien, ou pas du tout, de la grâce de Dieu. C'est le péché qui rétrécit. La désobéissance nous sépare plus ou moins de Dieu. Et donc empêche la grâce de passer. C'est pour ça qu'il faut se donner totalement à Dieu, sans réticence, se conformer de bon cœur et pleinement à la volonté du bon Dieu. Alors, l'orifice est pleinement ouvert et la grâce du bon Dieu passe. Deuxième comparaison, je vais en prendre plusieurs. Bon, une pièce sans fenêtre, alors vous mettez une lumière dedans, donc vous voyez quelque chose. Ça, c'est la grâce. Vous coupez le fil électrique, plus rien. Ça, c'est le péché mortel. Puis vous avez certaines lumières où vous avez un petit curseur qui permet de régler l'intensité. Alors vous diminuez l'intensité, ça, c'est le péché véniel. Vous augmentez l'intensité, ça c'est un acte de charité. Puisque par un acte de charité, on augmente la grâce en nous. On mérite une augmentation de la grâce. Mais au contraire, quand on fait un péché véniel, on diminue l'intensité de la charité de la grâce. Alors, une petite image du bicurseur qui augmente ou qui diminue la lumière, bon, ça peut nous aider à comprendre. Autre exemple, l'éponge et l'eau. Alors une éponge qui est sans eau est dure, sèche, cassante, et on ne peut rien en faire. Mais par contre, vous mettez l'eau dedans, l'eau pénètre partout, l'éponge devient souple, et elle peut servir. Et vous remarquez que l'eau pénètre toute l'éponge. L'éponge reste éponge, et pourtant l'eau a pénétré partout. Mais la grâce du bon Dieu fait la même chose. Elle nous pénètre dans tout notre être, mais elle reste bien distincte, différente de nous, de nous en tant que créature. Vous voyez ? Nous sommes créatures, la grâce nous pénètre tout entier pour nous transformer, pour nous surnaturaliser, nous diviniser, mais pourtant ce don surnaturel divin reste bien distinct de ce que nous sommes créatures. L'eau pénètre l'éponge partout, mais elle reste toujours distincte de l'éponge. Alors la grâce fait aussi ce que fait l'eau dans l'éponge, elle assouplit notre cœur, le rend capable d'aimer. Alors que sans la grâce, notre cœur est dur, il ne sait pas aimer. Ce n'est pas la grâce de Dieu, par la charité, que nous pouvons aimer. Et puis, par la grâce du bon Dieu, ben, nous devenons capables de faire tel et tel bien, nous sommes utiles à quelque chose, pour Dieu. On prend aussi l'autre exemple d'un morceau de fer plongé dans le feu. Alors, le morceau de fer plongé dans le feu, il devient rouge et lumineux, comme brûlant d'un feu intérieur. Et ce feu intérieur, c'est la charité. Elle pénètre le fer tout entier, hein, le feu pénètre en quelque sorte le fer tout entier, et pourtant le fer et le feu sont distincts. Le fer devient tout rougeoyant, comme brûlant de quelque chose à l'intérieur, mais pourtant ce quelque chose à l'intérieur n'est pas du fer. C'est différent. Mais de même pour nous, la grâce du bon Dieu, la charité, nous fait brûler de l'amour du bon Dieu, mais c'est un don surnaturel qui est bien distinct de nous-mêmes, qui nous pénètre partout, mais qui reste distinct de nous-mêmes. C'est un don surnaturel, c'est distinct de notre nature. Mais pourtant, ça nous pénètre, ça nous transforme tout entier. Et puis, vous avez l'autre exemple qui est celui de notre Seigneur dont je parlais lundi matin, dans l'entretien avec la Cananéenne. Donc, notre Seigneur disait, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, eh bien, tu lui en aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il dit un peu plus loin, une eau qui coule pour la vie éternelle. Donc, celui qui donne, c'est le Fils de Dieu, bien sûr. Et le don, bien, ce don, cette eau vive, c'est le symbole de la grâce, de la vie surnaturelle. Alors, expliquons simplement le mot « eau vive » par rapport à « eau morte ». Eau morte, par exemple, celle d'une mare. L'eau s'accumule dans la mare simplement parce qu'il pleut, puis toutes les eaux arrivent là, et puis sont là. Puis après, ben, il n'y a plus rien qui coule. Et on appelle ça un peu des eaux mortes. Et en général, on sait très bien que cette eau n'est pas très salubre. Faut mieux pas aller s'y plonger et ne pas la boire. C'est une eau qui n'est pas salubre, qui ne permet pas de vivre. Et on appellera eau vive celle qui coule en permanence, qui est en lien avec la source. Dans la mare, l'eau est coupée de la source qui l'a faite. L'eau, la pluie est tombée, ou bien il y a des eaux de ruissellement qui sont arrivées. Mais une fois que l'eau est tombée dans la mare, il n'y a plus aucun lien avec la source qui a été à l'origine. Tandis qu'un torrent, l'eau coule en permanence, elle est toujours en lien, l'eau qui passe devant vous est toujours en lien, continue avec la source. Et ça, on appelle ça une eau vive. Mais la grâce du bon Dieu, en nous, n'est pas l'eau morte, c'est l'eau vive. C'est-à-dire que la grâce du bon Dieu en nous, voilà, c'est cette eau qui coule en permanence, comme dans le torrent, mais cette grâce en nous, comme dans le torrent, est en lien permanent avec la source. Et quelle est la source? C'est l'Esprit Saint. Donc si vous voulez que l'eau de la grâce soit eau vive en nous, bien il faut aussi que l'Esprit Saint soit présent. Ce que confirme la révélation, puisque si nous sommes en état de grâce, nous sommes temple du Saint-Esprit, Saint Paul qui nous le dit. Et donc, du Saint-Esprit s'écoule en nous, en permanence, cette eau, une eau vive. Comme l'eau vive du torrent, elle s'écoule sans arrêt devant nous, mais elle est toujours en lien avec la source. Et c'est pour ça qu'elle est toujours une eau vive et qui donne la vie et qui est bonne, bonne à boire, bonne à utiliser. Alors que l'eau morte qui stagne, celle-là n'est plus bonne à rien, enfin pour nous. Et donc, la grâce est cette eau vive qui est en lien permanent avec la source qui est l'Esprit-Saint. Donc l'Esprit-Saint est permanent, en permanence en nous. Voilà les quelques comparaisons qui nous aident un petit peu à comprendre. Donc c'est une transformation profonde de nous-mêmes, très profonde. Toute notre être est surnaturalisée. Il doit l'être de plus en plus. C'est-à-dire que cette grâce doit de plus en plus influer dans toute notre aide et dans toutes nos actions. Donc nous avons dit que nous sommes créés en Jésus-Christ, que nous sommes participants de la vie divine, et participants de la vie divine, c'est aussi participer à cet échange de connaissances et d'amour qui se réalise entre les trois personnes divines. C'est par la foi, nous connaissons Dieu comme Dieu se connaît. Et par la charité, nous aimons Dieu comme Dieu s'aime. Bon, nous participons à la vie divine. La vie divine, c'est cette charité qui s'échange entre les trois personnes. Mais c'est à ça que nous participons. Ensuite, donc, par la grâce, après le fait d'être créé et de participer à la vie, à la nature divine, nous sommes nés de Dieu. C'est ce que nous disons dans le dernier évangile de la messe, le prologue de Saint Jean. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, nous ne sommes pas nés de, je ne sais plus ce qu'il dit, la troisième chose. Nous sommes nés de Dieu. Et c'est donc une nouvelle naissance. Dont parle notre Seigneur avec Nicodème. Et vous connaissez la réponse de Nicodème. Alors il faut que je retourne dans le sein de ma mère pour naître à nouveau. Il n'a rien compris. Et notre Seigneur lui dit, t'es docteur en Israël et t'as toujours pas compris. Et vous voyez ça, les Juifs étaient très charnels, ils ne voyaient pas du tout le côté spirituel et surnaturel. Et notre Seigneur a eu beaucoup de mal à faire comprendre, bien sûr. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit, dit notre Seigneur. Donc, né de Dieu. Saint Paul aux Romains écrit, Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, Dieu nous a prédestinés de toute éternité. C'est la volonté éternelle de Dieu. C'est la pensée éternelle de Dieu. Que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Semblable à son Fils. Son Fils, ben, il est Dieu, puis homme, il s'est fait homme. Ben, nous, faut, étant homme, il faut que nous devenions Dieu, nous devenions fils. Et que le fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc il y a le fils aîné, Dieu le fils fait homme, et puis il y a nous, fils de Dieu, par adoption. C'est encore saint Paul qui le dit, vous le trouverez dans l'épître du dimanche dans l'octave de Noël. Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Vous êtes fils, alors vous avez dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Et cet esprit nous fait crier Père, nous fait dire Père à l'égard de Dieu. Encore saint Paul dans l'épître aux Romains. Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors là, il faut préciser, bien sûr. Il y a le Fils unique de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, qui lui est Fils par une génération éternelle. Il reçoit toute la nature divine. Il est consubstantiel au Père. Il a absolument toute la nature divine. Ça, c'est le Fils unique de Dieu. Dieu le Fils et qui s'est fait homme. Alors, différence essentielle avec nous, c'est qu'il est Dieu absolument. Nous, nous sommes fils par adoption. Donc, nous recevons dans le temps et non pas éternellement, nous recevons dans le temps une participation à la nature divine. Nous ne recevons pas toute la nature divine, nous ne sommes pas Dieu. Nous recevons une participation à la nature divine qui est la grâce. La grâce, participation à la nature divine. Alors il faut essayer de comparer, puisque saint Paul parle d'adoption, essayer de comparer l'adoption surnaturelle qui nous fait fils de Dieu avec l'adoption naturelle que l'on peut connaître parmi les hommes. Quand deux époux adoptent un enfant, ils lui donnent le nom, leur nom, bien sûr, ils lui donnent l'éducation, bien sûr, ils lui promettent l'héritage. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner, c'est leur propre vie. Il n'y a pas, dans l'enfant adopté, quelque chose du père et de la mère. Il n'y a pas le même sang, il n'y a pas la ressemblance. Il n'y a rien de même. Dans notre adoption divine, il y a ces quatre choses. Nous recevons le nom, nous sommes fils de Dieu, chrétiens. Nous recevons le nom, nous recevons l'éducation chrétienne par l'Église. Bien sûr, c'est l'Église qui nous éduque, qui nous apprend à vivre en enfant de Dieu. Nous avons la promesse de l'héritage. Dans l'adoption, les parents promettent l'héritage au fils adoptif. Mais nous avons la promesse de l'héritage. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. C'était l'un des dimanches là, qui vient de passer. Nous avons la promesse de l'héritage. Et à la différence, donc ça c'est commun avec l'adoption terrestre, mais la différence, elle est dans le quatrième, à savoir que contrairement à l'adoption terrestre, il y a entre notre Père et nous, quelque chose de commun. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Alors que dans l'adoption terrestre, il n'y a rien de commun entre les parents adoptifs et l'enfant adopté. Il n'y a pas la même vie. Tandis que dans notre adoption surnaturelle, il y a quelque chose de commun, il y a une vie qui s'écoule du Père dans les enfants. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Quelque chose de notre Père en nous. Nous ressemblons, nous pouvons ressembler à Dieu notre Père et à notre frère aîné Jésus-Christ. Donc c'est une adoption très profonde. Ce n'est pas un simple nom. C'est une transformation extraordinaire. Nous sommes enfants, en réalité, nous appelons Dieu notre Père dans toute la force du terme. Parce que vraiment, il nous engendre et que nous sommes, nous, engendrés dans une vie semblable à la sienne. Et c'est ce que dit Saint Jean dans sa première épître. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous le soyons en effet. Vous voyez, Saint Jean distingue, non seulement appelés, mais nous le sommes en effet. C'est une réalité. Ce n'est pas simple, un simple nom, c'est une réalité intérieure. Nous sommes donc fils de Dieu le Père, amis et frères de Jésus-Christ, par la grâce, tout ça, attention. Amis et frères de Jésus-Christ et temple du Saint-Esprit. C'est la révélation. Fils de Dieu le Père, nous sommes nés de Dieu. Amis de Jésus-Christ, Jésus nous le dit lui-même, je ne vous appelle plus serviteurs mais amis. Et je vous ai cité Saint Paul tout à l'heure qui nous dit que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, amis et frères de Jésus-Christ et temple du Saint-Esprit, c'est encore Saint Paul. Vous voyez combien notre lien à la Sainte Trinité est profonde. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous confirme tout cela, ou plutôt nous l'enseigne directement, et d'une manière très précise aussi sur la condition nécessaire. Si quelqu'un m'aime, c'est au Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, au verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors garder la parole, c'est observer cette parole, donc la mettre en application, donc l'obéissance au commandement de Dieu, ou l'obéissance à Dieu. Et vous trouvez dans Saint Jean, que ce soit l'évangile ou la première épître, cela répété souvent. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans cette obéissance au commandement. Donc si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Ce « nous » désigne Jésus qui parle, et puis son Père. et aussi, bien sûr, l'Esprit Saint. Donc, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Nous, ce sont les trois personnes divines. C'est la révélation, hein. C'est notre Seigneur qui nous le dit. Ce n'est pas une invention de l'Église. C'est le titre d'un ouvrage du père Froget, dominicain. Sur ce sujet, il a écrit tout un livre sur l'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme des justes. Alors n'oublions pas la condition, il faut garder la parole de Jésus-Christ, donc croire en toutes ses vérités et obéir à sa loi. Et puis, il faut nous appliquer, ressembler de plus en plus à notre Père du ciel, prendre exemple sur notre frère aîné, Jésus-Christ, et demander sans cesse au Saint-Esprit de nous aider. Donc ça, nouvelle créature. Et cette nouvelle créature doit être capable d'agir divinement. Donc nous avons les dons de Dieu transforment notre âme en elle-même par la grâce sanctifiante, mais ils vont aussi transformer toutes nos facultés, l'intelligence, la volonté, et aussi ils vont toucher les passions. Tout le domaine de la concupiscence, tout cela va être aussi transformé, aidé par les vertus, les dons de Dieu. Donc le bon Dieu va transformer aussi nos facultés, les surnaturalisées, par les vertus surnaturelles, les vertus théologales et les vertus cardinales, et par les dons du Saint-Esprit. Et c'est par ces vertus que nous pourrons bien agir. Je vous rappelle cette parole de Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2. Nous avons été créés dans le Christ Jésus pour produire des œuvres bonnes. Créés, oui, mais nous devons produire des œuvres bonnes. Comme ces œuvres bonnes sont surnaturelles, il faut que nous ayons les moyens d'agir surnaturellement. Et ces moyens d'agir surnaturellement, c'est les vertus et les dons. Plus, il ne faut pas l'oublier, toutes les grâces actuelles qui nous poussent à mettre en mouvement ces vertus et ces dons. Parce qu'il faut les mettre en mouvement, ils sont là, hein, c'est comme le bras, vous l'avez, vous avez une puissance d'agir, mais il faut le mettre en mouvement pour agir. Alors les grâces, vous avez les moyens d'agir surnaturellement, les vertus et les dons, mais il faut les mettre en mouvement. Eh bien la grâce actuelle est sans arrêt à nous solliciter pour les mettre en mouvement. Et nous avons besoin de ces grâces actuelles pour mettre en mouvement tous ces vertus et dons. Donc la grâce actuelle, les grâces actuelles, donc ces dons, ces secours de Dieu passagers pour nous aider à faire le bien et éviter le mal, la grâce actuelle, ces secours passagers, eh bien nous entourent toute la journée. Sans arrêt, c'est présent. Le bon Dieu accompagne toutes nos actions, enfin les précède, les accompagne et les termine par ses grâces actuelles. Oui. Quand vous allez prier, mais c'est une grâce actuelle. Quand vous allez vous confesser, c'est une grâce actuelle qui vous y pousse. Quand vous lisez un livre de spiritualité et que vous êtes touché par une parole, c'est la grâce actuelle. Quand vous décidez de faire un petit sacrifice, c'est la grâce actuelle qui vous y pousse. Eh oui. Le bon Dieu ne force pas notre liberté, mais il nous sollicite sans arrêt à bien l'utiliser avec les vertus et les dons. Et n'oubliez pas cette parole de Saint Paul, « Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits, mus par l'Esprit de Dieu. » Donc il faut être très très docile à cet influx divin, à cette action constante du Saint-Esprit par les grâces actuelles, pour nous faire agir divinement, parce que par nous-mêmes, difficile. Hein. Donc nous devons sans arrêt coopérer à ces grâces actuelles, à cette action du Saint-Esprit en nous. Alors, je m'arrête là, simplement, n'oubliez pas que la foi, oui, petite précision sur ce que j'ai dit hier sur le péché, si certaines d'entre vous n'ont pas bien compris certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout dire, nous ni préciser toujours exactement ce qu'il faut, n'hésitez pas à venir poser des questions. Et préparer les questions, comme vous êtes nombreuses, nous n'avons pas beaucoup de temps à vous accorder toujours, préparez bien ce que vous avez à demander pour que ça aille aussi vite, aussi rapidement que possible, parce qu'on ne peut pas se multiplier le temps. N'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas que l'intelligence va être transformée par la foi et la prudence. La volonté va être transformée par l'espérance, la charité et la justice. Et puis les passions vont être transformées par la tempérance qui modère ce désir trop grand de toutes les satisfactions et plaisirs de la vie et par la force qui nous aide à surmonter cette répugnance que nous avons devant la difficulté. Vous voyez, la force, la tempérance du côté des passions, la volonté, donc l'étage supérieur, la volonté, l'espérance, la charité, la justice, et sur l'intelligence, la foi, la prudence. Et voilà, et puis les dons du Saint-Esprit qui agissent pour perfectionner toutes les vertus. Voilà l'organisme surnaturel, la grâce, qui nous permet de faire l'ascension du ciel, si vous voulez, c'est un peu comme l'équipement surnaturel pour faire l'ascension de la montagne du ciel. Alors courage, il faut monter, ça demande des efforts. Courage.